Bonjour, bienvenue pour cette table ronde qui est l'avant-dernière de la journée. Le thème sur lequel nous allons passer une heure ensemble, c'est l'agence spatio-temporelle de la science-fiction. Et nous avons autour de cette table cinq agents très 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 spéciaux. Nous avons quatre agents très, très spéciaux. Mais quand j'ai préparé mon texte, nous étions cinq en conférence. Une demoiselle qui s'appelle Emma Lanero et qui n'est pas là aujourd'hui. Donc effectivement, je n'ai que quatre agents très très spéciaux. Donc en bout de table, Dave Calvo, qui est auteur, dessinatrice, conceptrice de jeux vidéo, reçu plusieurs prix, dont le Jules Verlanger pour son roman Wonderful. Son dernier roman Toxoplasma vient de sortir aux éditions La Volte et situe son action dans un Montréal en pleine insurrection. On verra ce quel rapport ça peut avoir avec une agence spatio-temporelle là-dessus. À sa droite, Laurent Genefort, qui est auteur, lui, d'une trentaine de nouvelles, d'une quarantaine de romans de SF, deux séries de fantasy. Donc je pense que tout le monde le connaît ici autour de cette table. Omal, son univers de prédilection, c'est du space opéra. Beaucoup de grands prix aussi, donc le grand prix de l'imaginaire. Et Spire, sa dernière série, publiée aux éditions Critique. Le premier tome est d'ailleurs en lice pour le prix européen des Utopiales qui sera remis ce soir. Pas trop de stress ?
Non.
Non. Bon. Très bien. Claire Belmas a publié avec Robert Belmas deux romans et une vingtaine de nouvelles, dont l'une d'elles a recueilli aussi un Grand Prix de l'imaginaire. Leur exploration des terres mortes anticipe une désertification massive des campagnes au profit de cités hyper développées. Leur dernier roman, Sous le soleil de cendre, est paru chez Scrinéo et projette le lecteur dans un 23e siècle post-apocalyptique. Et ici, juste à ma gauche, j'ai Sylvie Miller, qui, quand elle ne traduit pas ou ne dirige pas des anthologies, elle écrit, avec Philippe Ward, elle a créé le personnage de Lasser, détective des dieux, dans une uchronie où les dieux égyptiens ont perduré jusqu'à notre époque contemporaine. Elle vient de sortir son premier roman en solo, Satinka, qui est paru aux éditions Critique, et qui explore, entre autres choses, la construction au XIXe siècle d'une grande ligne de chemin de fer transcontinentale américaine. Voilà. Donc nous allons essayer de voir un petit peu tout ce qui peut avoir un rapport avec le spatio-temporel. Donc, sur le titre, sur la conférence, vous avez pu lire H.G. Wells, Le machine à explorer le temps. Peut-être vous êtes un peu plus jeune, donc vous avez plus une référence sur le retourneur de temps d'Harry Potter. Il y a bien des moyens autres que cela d'explorer le temps. Et la première question que j'ai envie de poser à nos auteurs, et le premier qui souhaite dégainer prend le micro, c'est comment vous faites voyager vos personnages dans le temps, si vous le faites, et par quel biais ?
Ça va être difficile parce que j'ai jamais écrit véritablement de récits sur le voyage dans le temps, précisément, parce que déjà, ma science-fiction relève plutôt de la hard science, où le voyage dans le temps, enfin le temps, c'est quelque chose qui se manipule difficilement, on va dire, parce que c'est une dimension en fait, avec laquelle qui est liée à la gravité, qui est elle-même une force, la force la plus difficile à manipuler aussi des quatre forces. Donc c'est quelque chose qui est globalement difficile quand on essaie d'être dans une logique un peu naturaliste, on va dire. Donc mais en réalité la manipulation du temps, en fait, c'est, enfin, le fait de considérer que le temps est quelque chose de plastique et de donc un objet spéculatif finalement, quelque chose qu'on peut tordre mentalement parlant, c'est presque l'acte de naissance de la SF en fait. Une des œuvres fondatrices, c'est La machine à explorer le temps, qui je crois qui est très ancien, qui est 1888 je crois, enfin en tout cas la fin du 19e. On est à l'orée, la SF n'existe pas encore. Et le en tant que genre constitué, 95 pardon. Et donc d'imaginer voilà de voyager physiquement dans le temps, ça a été quelque chose, une vraie révolution. Ça veut dire que tout à coup le temps devenait quelque chose de un objet, un véritable objet spéculatif, quoi. Alors au début on pouvait pas y aller physiquement, donc on y allait d'abord par les rêves, enfin dans le passé ou dans le futur. Par le rêve, les drogues, etc. Puis après, avant même d'y aller physiquement. Une fois qu'on y allait physiquement, c'était fini, quoi. C'était la porte ouverte à tous les paradoxes, on va dire. Et finalement, la fin des paradoxes a été, enfin, de la grande époque des paradoxes, ça a été l'âge d'or de la science-fiction. ça a été quand on a considéré qu'il y avait que la nécessité d'une temporalité unique, de cette espèce de fil historique nécessaire et obligatoire, ne le devenait plus obligatoire quand on considérait qu'il pouvait y avoir un multivers au moins spéculatif, et donc tout à coup les ramifications d'une sorte d'arbre, ça devenait une toile infinie de possibles. Et donc finalement voyager dans le temps, créer des embranchements temporels, ce n'était qu'un enrichissement plus qu'un c'était pas quelque chose à retrancher à la fin du récit. Et moi qui n'ai jamais fait de voyage temporel, en réalité, quand on fait de la science-fiction, on se colle au temps. Toujours. Et je crois que c'était Lovecraft qui disait que pour un écrivain, il n'y avait qu'un seul combat valable, c'est celui de l'écrivain contre le temps. Et je pense que c'est fondamentalement vrai. Dans un récit que j'avais fait qui s'appelait Memoria, c'est pas un voyage dans le temps, mais mon héros voyage dans le temps quand même, puisqu'il est immortel. Il saute de corps en corps, et donc il a perdu son enveloppe corporelle, et donc il va traverser les époques, même si la flèche du temps elle reste intangible, il ne peut aller que du passé vers le futur, toujours à même vitesse, on va dire, qui est celle du présent. Malgré moi, j'ai joué avec le temps. Malgré nous, on joue toujours avec le temps, en fait, je pense.
Oui, il y a une façon de jouer avec le temps aussi dans La Serre. Par exemple, dans la série La Serre, il y a déjà l'Uchronie. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est moi qui voyage dans le temps, puisque la temporalité pour le héros, lui, c'est son temps normal à lui. Mais comme c'est une uchronie, on a décidé que les structures du monde antique sont toujours en place dans les années 30, ben, du coup, il a fallu reconstruire les temples qui maintenant sont écroulés, là, les remettre debout, faire agir les dieux au milieu des hommes. Et dans le tome 4 de La Serre, il se permet même après de trouver un espèce de dispositif un peu bizarre dans une réserve chez un antiquaire, et de se retrouver projeté dans des sauts dans le temps qu'il n'arrive pas à maîtriser. Alors il tourne le bidule pour essayer de revenir. Et puis finalement, puisque du coup il y a beaucoup de références, il y a de l'humour et beaucoup de références à des thèmes de SF, on va même avoir, il va avoir la patrouille du temps qui va le poursuivre, parce que finalement il fait des choses interdites. Et puis à un moment donné aussi H.G. Wells avec sa machine qui va peut-être venir à son secours. Donc c'était très très amusant d'arriver à mettre ces références là et de jouer là-dessus à l'intérieur du roman. Et dans Satinka, il y a effectivement là du voyage dans le temps, mais là pour le coup on est dans de la fantasy urbaine, et donc là c'est à travers la magie et le chamanisme qu'elle arrive en fait à déplacer son corps pour aller dans le passé au 19e siècle, pour aller résoudre des problèmes justement sur ce fameux chantier de construction du chemin de fer, donc en Californie en 1865 et quelques.
Et chez vous, Claire, comment on voyage dans le temps ?
Oui, alors moi je veux parler d'une expérience aussi assez vertigineuse, qui est l'expérience de l'auteur de science-fiction en particulier, comme c'est notre cas, à mon époux et à moi, puisque je porte aussi la parole de mon époux qui est absent et il s'en excuse. Cette expérience-là, c'est l'expérience des auteurs qui... Bon, alors il faut partir quand même d'un point de vue, c'est que toute œuvre de science-fiction est forcément un voyage dans le temps. Quand on est attiré comme notre couple littéraire par l'anticipation à court terme, on vit une expérience tout à fait étrange. C'est-à-dire que si on vit assez vieux pour voir venir, pour pénétrer dans les temps qu'on a imaginé, anticipé des décennies plus tôt, si par hasard il arrive que certaines de nos intuitions se réalisent, alors on a l'impression de vivre dans sa propre fiction. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fascinant et même extrêmement angoissant. Parce que, par exemple, nous avons dans nos anticipations à court terme imaginé la dépopulation massive des zones rurales et le dépérissement des villes moyennes au profit de mégalopoles hypertrophiées et monstrueuses. Eh bien, à l'heure actuelle, bon, nous avons situé le début de l'accélération de ce processus au tournant de 2010 environ. Et il se trouve que c'est ce qui se produit. Nous habitons dans le secteur de Châtellerault. Si vous voyez, si vous avez pu voir Châtellerault il y a 25 ans quand nous sommes arrivés dans ce pays, la rue piétonne centrale était animée, il y avait des commerces, il y avait toujours du monde. Maintenant, deux tiers des commerces, des boutiques sont abandonnées. Et la rue piétonne n'est traversée que par de rares passants qui ne s'attardent jamais. Et c'est très triste à voir. Et donc, on a vraiment l'impression de vivre un temps fictif, finalement, quand on a anticipé ce genre de choses. C'est ce que nous avons fait dans notre cycle des Terres mortes. Voilà, mon expérience du voyage dans le temps, c'est à la limite, c'est l'auteur qui rentre dans son propre voyage dans le temps. C'est assez effrayant.
Moi, je vis totalement ça aussi, sauf que je me projette pas dans des futurs, mais comme je mets au centre de mes travaux, de mon travail, mon intimité, pas ce qui m'arrive en tant que tel, mais ce que je ressens en fait. Ben, souvent mes bouquins, je ressens des choses, je mets des choses que je vais ressentir en fait, et des fois je rentre dedans comme ça, et je vis littéralement dans le futur que j'écris tout le temps, mais sans le savoir, parce que c'est pas un truc. Je me dis, il faut qu'il se passe ça dans ma vie, c'est ce que voilà. Donc ça, ouais, je le ressens, c'est un syndrome, c'est quasiment un syndrome en fait, quoi. Et c'est peut-être propre à la SF aussi, effectivement, une forme de mise en jeu comme ça des idées du réel. Je voulais juste dire que moi j'avais pas vraiment touché le sujet du voyage dans le temps en tant que tel, parce que ça m'énerve, enfin ça m'angoisse un peu et j'aime pas trop, bon, les paradoxes, tout ça, retour vers le futur et Day of the Tentacle, quoi, voilà. Mais à part ça, globalement, il n'y a rien qui m'emballe plus que ça, quoi. Moi, personnellement, la machine à remonter le temps m'a fait chier souverainement. Je ne suis pas très fan de ce genre de truc. Donc, voilà. Par contre, ce que tu as dit sur le fait que le temps est une dimension et qu'à ce moment-là, on peut envisager que les multivers et les voyages dans le multivers sont aussi des voyages dans le temps, d'une certaine manière, ça, oui. Et j'ai écrit directement sur le sujet dans un bouquin, Moment Ego, un bouquin qui s'appelle Elliot du Néant, où il y a un gars qui voyage, en fait, je vous le fais vite, c'est juste une histoire de chambre close, et puis il y avait un gars dedans, et puis il a disparu. Et pourtant, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, ils ont regardé, il n'y a pas de trappe, il n'y a rien. Voilà. Et donc, en fait, il est dans l'espace entre la tapisserie et le mur, en fait. Mais en fait, l'espace entre la tapisserie et le mur, c'est plus précis que ça. C'est pas qu'il est dans l'espace entre la tapisserie et le mur, c'est qu'il est dans l'espace entre l'endroit où il y a l'angle du mur, en fait. L'angle du mur et du plancher, quoi, et de la tapisserie. Et c'est un endroit qui est un point aveugle, littéralement, de la réalité, qui est un moment infini dans le temps. Enfin, infini, qui a une durée du temps, en tout cas, qui s'étire beaucoup plus lentement que dans le réel. Et le bouquin alterne. Il y a un gars qui passe de l'autre côté, qui se retrouve sur une plage où il ne se passe jamais rien. Et il va pêcher des poissons avec des macareux, et c'est tout ce qu'il fait de sa vie, quoi. Et il se fait vraiment il s'embête vraiment pendant 10 ans, quoi, là-bas. Pendant que ses potes, qui sont dans la même pièce, mais en temps réel, se demandent où il est passé, quoi. Et c'est donc lui qui vit, il a la barbe qui pousse, devient sage et tout. Et pendant que ses potes sont en train d'essayer de le ramener. Et à un moment donné, il ramène, il refait incursion dans le réel, avec depuis ce temps nouveau, et il revient en ramenant une capacité à voir les choses de la même manière, c'est-à-dire à les étirer de la même manière. Et là, il va commencer à découvrir un pouvoir qui va l'emmener très très loin dans l'horreur, en fait, parce qu'il ne le maîtrise pas. Donc, pour moi, le temps, dès qu'il est perçu en termes de dimension, oui, alors là, ça devient un jeu génial, avec, tu vois, mais qui n'est pas dans ce cliché du voyage dans le temps où on revient et puis soudainement, oh mon Dieu, je ne suis pas né parce que ma mère n'a pas rencontré machin, quoi, tu vois. Bon, ça, c'est un peu. Voilà. Mais même retour vers le futur marche pas. Dans le 2, là, j'ai revu le 2 il n'y a pas longtemps, à un moment donné, il y a un embranchement qui marche pas, c'est pas possible. Parce que s'il revient dans le temps à ce moment-là, enfin, et c'est foireux, en fait, même avec les embranchements, avec les multivers, quoi, c'est foireux quand même. Donc c'est jamais vraiment bien. Si, la main des 12 singes, c'était bien, dans ce genre-là, quoi. Mais c'est le seul truc qui m'a vraiment. Ouais.
Mais tu sais que ce que tu racontes sur ton bouquin, là, moi, ça me rappelle furieusement un auteur qui a beaucoup travaillé justement sur le temps, et c'est Marcel Aimé. Il faut lire son recueil, Le Passe-Muraille, pour avoir, par exemple, il y a une nouvelle qui s'intitule La Carte, qui est tout à fait étonnante. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu ici. Ça se passe pendant la guerre, pendant les restrictions. Et comme il y a un problème de subsistance, quoi, de rationnement, le gouvernement trouve le moyen de résoudre ce problème en disant, bon, ben, à partir de tel jour, nous prenons un décret, les gens vont vivre une par période. C'est pas un jour sur deux, parce que non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'ils établissent des périodes de droit de vie selon les catégories socioprofessionnelles. Et alors, imaginez-vous ceux qui ont le moins de possibilités de vivre, eh bien, bien sûr, ce sont les inutiles, hein, les artistes. Alors, on suit un héros qui doit être un écrivain ou un artiste, je ne me souviens plus très bien, qui a le droit de vivre deux ou trois jours tous les 15 jours, par exemple, deux ou trois jours par mois. Alors, il disparaît. Il disparaît, il tombe dans un trou par décret comme ça. Alors, il faut vraiment entrer dans le schéma de Marcel Aimé. C'est totalement anti-scientifique, mais l'hypothèse est tout à fait extraordinaire. Et donc, là, il y a bien un jeu avec le temps.
Et ce jeu avec le temps, vous, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est un outil parmi d'autres dans la boîte à outils d'écrivain, ou est-ce que c'est plus spécifique que ça? Est-ce que vous cherchez à produire un effet particulier ou apporter un message, ou à quoi ça vous sert, vous, en tant qu'écrivain, dans votre tambouille d'auteur?
Je pense qu'on ne cherche pas forcément... Alors, parfois, il peut y avoir un texte, une nouvelle qu'on va écrire en disant, voilà, je cherche un effet particulier par rapport à cette chose-là que je vais utiliser, mais souvent, ça peut venir aussi au fil de l'histoire, et où d'un coup, on réalise que on va utiliser un procédé parce qu'il va s'imposer à ce moment-là sans qu'on l'ait forcément cherché. Je sais que dans la serre, notamment, l'histoire du dispositif qu'il trouve et où il se retrouve projeté dans le temps, c'était pas prévu au départ, et puis c'est en écrivant que d'un coup, on s'est dit, tiens, il est dans sa remise, il va trouver, alors il faut qu'il trouve quelque chose de bizarre, mais quoi? Et là, d'un coup, l'idée est venue de dire, bah, ça peut être amusant, effectivement, qu'il trouve un truc qui va le projeter ailleurs. D'ailleurs, quand il sort de la réserve, lui ne le sait pas, mais il est plus à la même date, il est X années avant, et il comprend absolument pas ce qui se passe. Et donc, il se retrouve un peu perdu, parce qu'il se dit, mais... qu'est-ce qu'il y a eu? Il s'est pas rendu compte qu'il avait basculé d'époque. Et alors ensuite, ça va être un petit peu la difficulté de retourner à son vrai temps. Mais le procédé, en fait, d'écriture, il a été dicté par l'histoire et par la problématique du personnage, en fait.
C'est quoi la question? Non, j'ai entendu écouter, mais je n'ai pas écouté.
En tant qu'écrivain, en fait, à quoi ça sert c'est l'outil voyage dans le temps, ou l'outil temps comme dimension, jeu avec le temps, à quoi ça vous sert? Est-ce que ça vous sert à faire passer des messages? Est-ce que c'est juste un outil supplémentaire? Ou est-ce que vous l'utilisez sciemment pour provoquer quelque chose chez le lecteur? Ou ça peut être non, c'est pas du tout...
En fait, c'est difficile... D'abord, il faut reconnaître que beaucoup de choses ont été faites, et la plupart des grands textes ont été écrits quand même sur le temps. C'est difficile d'aller plus loin que La mère célibataire, par exemple, de Robert Heinlein. C'est All You Zombies en anglais, où le personnage est recruté par une agence temporelle. Et en fait, il va voyager dans le temps, et il va devenir son propre père, sa propre mère. Il va changer de sexe, il va devenir sa propre mère. Oui, oui, une adaptation qui n'était pas extraordinaire, mais prédestination, quelque chose comme ça, voilà. Le jeu est incroyable, et je veux dire, à partir du moment là, on a, en fait, le temps, il est toujours indexé à quelque chose. Il est toujours au service de. Là, c'est l'identité, en fait. Là, le jeu sur le temps n'a pas d'autre intérêt que de montrer une identité fluctuante et un personnage qui devient fluide d'une certaine manière. Fluide dans le temps, fluide dans le genre, fluide. Et qu'est-ce qu'on peut écrire après ça comme voyage dans le temps en tant que voyageur individuel? Pour moi, le meilleur a déjà été écrit. Ce qui est intéressant, je trouve, avec le voyage temporel, je trouve que le voyage temporel, il est intéressant et il est né à un moment où on remettait en question la science classique. Et parler de voyage dans le temps, c'est toujours parler de paradoxe, hein, quelque part. Et c'est déjà de montrer que quand on parle du paradoxe du grand-père ou du paradoxe de l'écrivain, c'est une façon de montrer, enfin, c'est le paradoxe de l'écrivain, c'est un écrivain qui tombe sur un livre génial et il tombe sur une machine à voyager dans le temps, il se l'envoie à lui-même par la poste dans le passé et il devient parce qu'il veut être l'auteur de ce, et donc c'est une génération spontanée d'un texte qui n'a jamais été écrit, en fait. Oui, voilà. C'est un paradoxe de l'écrivain. Et puis il y a le paradoxe du grand-père de Barjavel en 43, où il imagine quelqu'un qui veut aller tuer Napoléon, enfin où le
et dont le grand-père
et il va tuer son grand-père. Et voilà, on a une boucle. Et en fait, cette boucle, c'est comme un infini. C'est-à-dire que c'est un infini qui rebique, c'est-à-dire que c'est quelque chose. Et comme dans toute théorie scientifique, quand on a dans l'équation un infini, qui est une forme de boucle, hein, quand on le... ça veut dire que ça foire. Ça veut dire que quelque part, l'équation, de toute façon, elle est mauvaise. Et voilà, c'est ça qui est intéressant dans le paradoxe temporel, c'est que ça montre les limites de toute théorie du réel. C'est ça, c'est là où c'est intéressant le paradoxe temporel, et c'est pardon, c'est au... même si c'est très difficile à faire, ça reste au cœur de l'ASF en tant que discours sur le réel.
Claire, tu veux dire quelque chose ? Oui, alors, j'ai adoré ce que tu as dit sur la fluidité. C'est vrai que c'est ça, pour moi, mais même l'enjeu pour moi, sur le temps, c'est juste la révélation de l'intimité. C'est toujours pareil. Tout ce que j'aime, c'est quand ça tourne autour de l'intimité et de l'être, de l'humain, et comment est-ce que... Voilà. D'ailleurs, j'ai été frappé, je disais tout à l'heure que je n'aimais pas les trucs sur le voyage dans le temps, c'est pas tout à fait vrai, en fait. Je me rends compte que j'aime... Je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'aime bien, en fait, quoi. Et je me reviens, et tu parlais de dire à un moment, peut-être qu'on a épuisé les tropes et compagnie, voilà, et c'est possible, mais il n'empêche que j'ai été quand même frappé par un film qui avait été fait il y a quelques années par un type absolument extraordinaire, un film qui s'appelle Primer, je sais pas si vous l'avez vu. Moi je dis à tout le monde qu'il faut voir Primer et revoir Primer et revoir Primer, quoi. C'est un bouquin que je trouve absolument, un film absolument admirable, mais qui est l'égal d'un livre. Pour pas, j'ai toujours trouvé que le cinéma de SF était un peu à l'arrière-garde des idées de SF en général, quoi. Et ça se vérifie encore aujourd'hui avec le Blade Runner, qui sont des idées complètement archaïques, obsolètes, quoi. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, même l'adaptation de Ghost in the Shell était nullissime et disait des choses plus intéressantes. C'est hallucinant, quoi. Mais par contre, Primer, c'était ce moment où il y a eu un auteur, un compositeur, interprète qui a décidé de faire un monde complet et qui a décidé de traiter le voyage dans le temps d'une manière absolument remarquable en plaçant l'humain et la fragilité de l'humain face à ce truc, parce que quelque part on dit que c'est de la SF parce qu'il y a des mécanismes et tout, mais quelque part le fantastique qui consiste à analyser l'effet que produit la terreur d'un viol du réel, en fait, j'utilise le mot viol, je n'aime pas trop, mais c'est de cette transgression du réel et comment est-ce que l'intimité, comment l'humain le gère, quoi. Ça dans Primer c'est fantastique. Primer c'est l'histoire de deux gars qui inventent une machine à voyager dans le temps dans leur garage par erreur, parce qu'à la base ils voulaient faire un truc de réfrigération, et en fait ils se rendent compte qu'à un moment donné il y a des moisissures dans leur machine, et qu'en fait la moisissure elle pouvait pas arriver en le temps que le truc était dans la machine, donc c'est qu'il y a eu en fait, et que c'était un œuf je crois ou je sais plus quoi, et qui est rentré dans une espèce de boucle de temps comme ça, et qui a pourri et qui a moisi dans un temps parallèle, quoi. Et les mecs ils se disent, tiens, on a qu'à faire des caissons plus grands et on a qu'à faire ça. Et alors ils se retrouvent, alors, bon, je vais pas vous spoiler Primer, parce que si vous l'avez pas vu, si vous aimez la SF, il faut absolument voir ce film, mais vous allez le voir, et la première fois je challenge quiconque de comprendre ce qui se passe dans Primer, parce qu'il y a des choses dans Primer qui ne sont pas vues ni dites. C'est-à-dire que quand on se dit, bah attends, c'est quand même bizarre, j'ai quand même pas super compris cette fin, il y a des nouveaux personnages qui arrivent et qui repartent en 3 dixièmes de seconde, qui ont l'air hyper importants, et quand on va voir sur la fiche Wikipédia la structure des embranchements temporels et dimensionnels de Primer, on se dit, mais attends, mais j'ai pas vu les trois quarts du film, en fait, quoi. C'est-à-dire que quand on arrive dans Primer, le film a déjà 80 ou 90 itérations de voyage dans le temps, quoi. Et nous, on est complètement dépassé par ce qui se passe, et on est pris au piège d'une espèce de complot. Donc, on comprend pas, en fait, et qu'on peut pas comprendre si on n'a pas vu le film plusieurs fois. Je vous conseille de voir ça. Et ça, c'était hyper riche, et ça, c'était vraiment fort, parce que c'était des humains, c'était la fragilité de l'humain au centre, parce que finalement, il n'y a pas d'intrigue autre que comment ces humains gèrent cette catastrophe qui leur arrive, quoi. Ouais.
Et à travers le voyage dans le temps, ils peuvent aussi se confronter à l'histoire quand ils vont par exemple vers le passé ou vers le futur, donc une autre vision du monde et leur propre réaction par rapport à ça, avec leur propre vision qui est issue de leur temps à eux. Et quand ils se trouvent confrontés en fait à un autre temps qui n'est pas le leur, avec éventuellement d'autres normes, d'autres façons de vivre. Et l'intérêt, c'est de voir comment l'humain justement réagit à ça et quel effet ça peut produire sur lui.
Et il faudrait peut-être que je le fasse. J'y pense depuis tout à l'heure que je suis assise là, et je me dis, non, il faudrait quand même que j'écrive ce truc, quoi. C'est, moi, je suis obsédé par Jack l'Éventreur et par la manière dont on sait pas, et comment il était où, et comment sentait sa cape, est-ce qu'il avait une cape, tu vois. Et je me suis, allez chercher ça, se mettre dans un coin sombre où on sait exactement que le meurtre arrive, et regarder. Et juste ça, juste par curiosité malsaine, de savoir si ce truc était vraiment possible, en fait, parce que c'est impossible. Ça c'est génial. Mais personne n'a jamais vraiment réussi à recréer cette fascination qu'on a pour un angle mort de l'histoire comme ça, quoi. C'est toujours je vais dans le passé pour tuer Hitler. Si, il y avait un bon truc. Excusez-moi, je parle beaucoup. C'est juste qu'en fait, je me rappelle que j'aime. Ouais, il y a un bouquin génial aussi là-dessus. Je sais pas pourquoi je déblatère là-dessus, mais ça s'appelle la théorie des cordes de Somoza. Voilà, qui est un bouquin que j'adore. j'adore, et qui est un pur voyage dans le temps. En fait, ils ont réussi à prendre des photos. En fait, alors je sais pas comment ils font exactement, c'est tout un tas. Ils ont une espèce de laboratoire secret sur une île secrète où ils arrivent à prendre des photos du passé. Littéralement, c'est-à-dire que alors c'est expliqué avec des rebonds de particules qui se détruisent pas à travers le temps, et que si t'arrives à les capter puis à les rebalancer quelque part, t'arrives à voir des trucs. Et donc ils ciblent, je vous raconte pas le bouquin, mais ils ciblent donc deux zones. Ils veulent cibler la zone où il y a Jésus-Christ qui va être crucifié et la zone où il y a des dinosaures. Et et c'est un super bouquin aussi, quoi. Et là-dessus, pareil, c'est pas du tout un voyage dans le temps avec des paradoxes, comme d'ailleurs Primer n'est pas non plus du tout un paradoxe, puisque c'est que des lignes qui coexistent, c'est que des lignes qui coexistent tout le temps, même si elles peuvent être parallèles. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est là on est dans autre chose, on est réellement dans la mémoire du souvenir, dans le temps du souvenir. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'accéder au temps du souvenir quand il se déploie dans notre tête, quand il se déploie en nous, et est-ce qu'on est capable de photographier un souvenir et de voir le souvenir évoluer avec le temps dans l'image qu'on a photographié de lui, quoi. Parce qu'à un moment donné, évidemment, il détourne la technologie pour faire quelque chose malgré eux, quoi. Donc ça, c'était bien aussi. C'était un autre moyen de faire passer, encore une fois, ce truc humain profond de la psyché qui est soit l'intimité, soit la mémoire, quoi. Voilà.
Donc en fait, ce qui est intéressant pour vous, c'est l'effet de décalage qui est provoqué entre le moment où le voyageur temporel se atterrit à l'extérieur, enfin elle atterrit, ouais, dans un temps autre, et comment il se confronte à lui-même ou à sa propre humanité.
Oui, c'est ça.
C'est plus ça qui vous botte.
Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je voulais juste finir encore un point avec un super autre bouquin, pareil, c'est le dernier bouquin de Gibson, The Peripheral. Alors moi, qui est un bouquin que j'adore, qui est absolument génial, où il a fait trois bouquins avant qui étaient moins bien, enfin si, Better Than Conditions, c'était quand même très bien. Les deux autres étaient un peu moins bien, et là il est revenu à la pure SF, et il fait un voyage dans le temps en s'inspirant d'une nouvelle que Bruce Sterling avait écrite pour une anthologie de cyberpunk qui s'appelait Mirror Shades. Qui est une anthologie que je vous enjoins à lire si vous ne l'avez pas lu. C'est un des sommets du cyberpunk. Et donc, c'est un truc où, en fait, il y a des gens qui arrivent à piller le passé. C'est-à-dire qu'en fait, ils se servent du passé comme générateur de créateurs. Par exemple, ils vont piller Mozart et ils vont faire à Mozart des trucs à la con, quoi. Et ils vont utiliser, ils vont mettre des usines dans le passé et tout, parce qu'ils savent que là-bas, ils sont tous complètement débiles. Donc, ils vont pouvoir leur dire, la technologie, c'est bien. Moi, j'ai Mozart en moto et en lunettes, enfin, qui arrive avec son Vespa, avec sa meuf et tout, c'est super. Et il a fait ça dans ce Peripheral, il l'a refait, mais de manière beaucoup plus apocalyptique, où là, on a une partie du futur qui, en fait, prend le passé comme pure ressource pour pouvoir alimenter sa survie, quoi. Et c'est super bien fait, et ça se passe sur deux temps différents, avec des gens dans le passé, des gens dans le futur, et des gens dans le futur, qui reviennent dans le futur passé. Voilà. Allez, lisez ce livre, il est trop bien.
Dick avait fait ça aussi avec En attendant l'année dernière.
Oui.
Hein, voilà. Ça, il y a eu un grand précurseur aussi. Je sais pas, Dick devait précéder.
Hein. Oui, sûrement, oui, bien sûr. Oui.
Mais Orchet, c'est 85. Ah oui, c'est ça.
D'accord. Il y avait une nouvelle de Juan Miguel Aguilera que j'avais traduit pour Galaxy il y a un bon moment, dans laquelle, en fait, alors lui, il jouait sur les paradoxes, il se moquait un peu, c'était un peu traité à l'humour. Donc on avait découvert un moyen de faire voyager les gens dans le temps, et on leur proposait des destinations. Donc ils s'habillaient avec les vêtements de l'époque, et ils allaient visiter, et alors évidemment, gros succès, la crucifixion de Jésus-Christ. Sauf qu'à un moment donné, les locaux étaient très contents, il y a plein de touristes qui venaient, qui achetaient des choses, alors on leur donnait des anciennes pièces, enfin voilà. Sauf qu'à un moment donné, ça a tellement de succès que le site devient complètement surpeuplé. Donc là, ça commence à partir en catastrophe. Et puis surtout, des gens venus du futur qui trouvent que le christianisme c'est nul, je ne sais pas quoi, à un moment débarquent et kidnappent Jésus-Christ. Et donc là, ça part en grand n'importe quoi. C'est très très amusant, et en même temps, il arrive à vraiment traiter le côté du paradoxe. La vision de la nouvelle, en fait, était très très intéressante.
Mais c'est un des deux grands thèmes du voyage dans le temps. Hein, c'est aller zigouiller Jésus-Christ. C'est une obsession chez nous. Et puis tu es Hitler. Enfin, c'est les deux grands dans la SF de l'âge d'or. En général, on retournait tuer. Jésus-Christ ou Hitler, c'était l'un ou l'autre. Il y avait une nouvelle très très bien de l'âge d'or aussi, je ne me rappelle plus de quel auteur, où c'est un malade mental qui se prend pour Jésus, qui est persuadé d'être Jésus et qui s'enfuit à bord d'une machine. En fait, il vole une machine à voyager dans le temps, il retourne dans le... Ben en fait, juste pour voir son modèle, en fait. Mais en fait, il est pris pour Jésus, puisque comme il a tous les attributs, il est crucifié. Donc on a un paradoxe de l'écrivain typique, mais à base de Jésus, voilà, au lieu d'un livre.
Eh ben, sur Hitler, oui, t'as raison, puisqu'il y a notamment Raphaël Marine aussi, qui est un autre auteur que j'avais traduit. J'avais traduit un texte de lui où effectivement, il repartait dans le passé pour essayer de tuer Hitler.
Ouais. Donc, pour rester sur les tropes, hein, juste, tu peux parler, excuse-moi. Il y avait un jeu de rôle qui s'appelait In nomine Satanis Magna Veritas, qui est un truc assez marrant. Et il y avait un scénario, je me souviens, où on devait, en fait, on retournait tuer Jésus, mais il fallait pas le crucifier, il fallait le noyer dans une baignoire pour que tous les cathos ils aient une baignoire autour du cou et pas un crucifix. C'était vraiment top, quoi. C'était vraiment marrant. Moi, je trouve que c'est voilà. Bon, c'est ce genre de choses. Après, quand c'est fait avec l'humour, dès que c'est fait avec l'humour, ça marche mieux, je trouve. Enfin, voilà.
Alors, est-ce qu'on peut tout se permettre quand on voyage dans le temps, pour le coup ?
Je crois que quand on est auteur, on peut tout se permettre quand on a envie, effectivement, de jouer sur... Ça va dépendre de la manière dont ça sert l'histoire et de ce qu'on a envie de dire. Mais je pense que, effectivement, les auteurs peuvent triturer à peu près n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est aussi ce qui fait l'amusement. Le but du jeu, c'est aussi, en tant qu'auteur, de pouvoir jouer sur les choses. Donc, il faut que ça tienne la route quand même à un moment donné. Il faut qu'il y ait de la cohérence, mais...
Et pas de tabou, aucun.
En fait, on a une responsabilité quand même. Parce que, quelque part, c'est du révisionnisme aussi qu'on fait, quoi. Je veux dire, moi, je suis quand même très gêné quand je lis Dan Simmons écrire sur les nazis, comme quoi, en fait, non, c'était des vampires de l'âme, quoi. Super. C'est pas très cool, quoi. Enfin, on a quand même une responsabilité vis-à-vis de ce qui s'est passé en termes de catastrophe humaine, quoi. Et qui nous met dans une position de responsabilité vis-à-vis de ce qu'on écrit, même si je pense que c'est super important que la science-fiction se frotte à ces sujets-là.
Et voilà, oui, mais quelquefois, justement, tu vas aller explorer ces sujets-là pour en montrer l'horreur ou pour.
Donc... Mais expliquer l'horreur par un voyage dans le temps en disant, mais en fait, non, Hitler, c'était pas parce qu'il était humain, c'est parce que, en fait, ces hommes autour de lui, ils étaient des vampires stellaires, machin, qui pompaient, qui persuadaient les gens, etc. J'ai rien contre ça, je pense que c'est une bonne chose, c'est juste que je pense qu'on a une responsabilité quand on fait ça, juste, d'être juste, toujours, quoi, et d'interroger finalement pourquoi est-ce qu'on a cette nécessité de réécrire le passé, parce que, imaginons un instant que des gens du futur décident de prendre une œuvre de SF pour une Bible ou pour quelque chose de la connaissance, je veux dire, si demain j'enterre le Silmarillion et que j'attends 3000 ans, qu'est-ce qui va se passer, quoi ?
Il faut quand même savoir que la vision du passé qu'on a aujourd'hui, c'est une vision qui est aujourd'hui et que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça sera pas la même et qu'il y a des choses qui étaient acceptables à une époque qui le sont plus à une autre. Et c'est ça qui fait la complexité justement de ce travail de relecture et de réécriture.
Si on me demandait, moi, tout à l'heure j'assistais à un débat sur justement quels événements changeaient dans le passé. Si on pouvait voyager dans le passé, ce qui est quand même assez peu probable, dans le futur, c'est toujours possible. Les expériences ont été faites. Il faudrait évidemment affiner la technologie, mais dans le passé, c'est totalement exclu, a priori scientifiquement en tout cas, hein. Donc ça relève vraiment du domaine du fantastique. Mais alors, à la fin de cette table ronde qui s'est passée ici tout à l'heure, l'un des assistants a demandé aux auteurs, mais vous-même personnellement, si vous pouviez revenir dans le passé, quel événement ou quel fait choisiriez-vous de modifier pour que notre monde en soit bouleversé, changé, soit tout à fait autre. Et moi, j'étais là, j'aurais eu envie de répondre, mais moi j'irais assassiner Khomeini. Parce que mais là, c'est vraiment l'illustration de ce que Sylvie disait tout à l'heure. Nous avons, j'ai envie de faire ça parce que il a été quand même un personnage clé dans l'évolution de l'intégrisme islamique et qui nous pose des problèmes aujourd'hui. Voilà.
Je trouve que c'est intéressant aussi ce type de voyage temporel, d'aller tuer quelqu'un. Pour régler le problème, c'est intéressant parce que ça, c'est une certaine vision de l'histoire aussi. C'est une vision qui s'attarde sur les leaders, sur les chefs, sur les dates.
Très souvent dans ce genre d'écrit, d'ailleurs, le résultat qu'on obtient n'est jamais celui qu'on attendait au départ, parce
voilà,
qu'on va générer autre chose
ou un peu trop bien des fois. Mais je trouve que encore une fois, quand on manie le temps. On le manie toujours dans un cadre idéologique, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pas étonnant si le voyage dans le temps individuel pour aller régler un problème individuel, ce soit un genre très américain. Dans Une porte sur l'été, le personnage, il va retourner dans le passé pour aller régler son problème. Donc là, Enfin voilà, donc la société n'existe pas d'une certaine manière. C'est lié uniquement à des sommes d'individus, et on peut voilà. Et finalement, là, le temps, il est indexé sur une idéologie, en fait.
Et si tu regardes notamment la théorie des multivers, en fait, cette théorie, elle suppose, et dans les écrits qui la traitent, elle suppose que à chaque fois qu'il y a un choix ou quelque chose, il y a des univers parallèles qui se créent, et que finalement, tous les passés, en réalité, existent dans des univers différents, dans une multiplicité de formes imaginables.
Pour rebondir sur ce que disait Laurent Gennefort tout à l'heure, notamment sur l'Uchronie qui va régulièrement réinterroger l'histoire et la réécrire en fonction d'un point de divergence, l'histoire, il y a deux façons de la voir. La première, c'est les grands courants existent, ce sont des grandes vagues de fond, et peu importe les hommes qui sont au pouvoir à ce moment-là ou qui les incarnent, on peut les changer, l'histoire va quand même continuer à se dérouler de la façon dont on l'a connue. Ou on se dit, tiens, ce sont les grands hommes qui justement font l'histoire, des Napoléon, des Jésus, tant est qu'il ait vraiment existé, de cette manière-là. Mais en tout cas, ce sont les grands hommes qui font l'histoire. Et ce rapport peut-être à l'histoire et donc au voyage temporel, ça peut aussi changer. Et vous parliez tout à l'heure d'idéologie. Moi, j'ai envie de dire, dans l'idéologie, vous, en tant qu'écrivain, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez... est-ce que vous voulez montrer quelque chose en particulier dans vos récits ou dans vos romans ou dans vos nouvelles? Est-ce qu'il y a des messages que vous souhaitez faire passer, ou est-ce que vous n'avez pas cette conception-là quand vous jouez avec la dimension du temps?
En fait, le temps, c'est dans ce cadre-là, c'est quand on part vers le passé ou vers le futur, c'est l'histoire, en fait. Et moi, par exemple, je vais sortir de ça. Et c'est intéressant de voir comment, moi, personnellement, je trouve que la partie la plus intéressante de La machine à explorer le temps de Wells, c'est la toute fin. C'est presque l'épilogue. Alors, pas tout à fait l'épilogue, parce qu'il revient dans le temps présent, mais pour laisser une note. Mais son dernier voyage dans le futur. Et il va dans un temps incommensurablement long, j'ai réussi à le prononcer. Plusieurs milliards d'années, et il voit la fin de la Terre, la fin de la vie sur Terre. Et là, le temps, il prend sa dimension universelle, finalement, qui est celle de la petitesse de l'homme. Et là, on a j'ai l'impression que le voyage dans le temps, il servait vraiment à quelque chose, d'une certaine manière. C'est de voir la fin de l'humanité, la fin de la vie organique, la fin de la vie de l'univers. Là, ça va. Et bizarrement, il y a eu plusieurs adaptations, et aucune n'a jugé utile de montrer ça. Voilà.
Non, c'est fini. Ok. Excuse-moi. Non, mais c'est bon. Non. Finalement, c'est prendre conscience du temps, en fait, le message. C'est-à-dire, c'est faire prendre conscience. Déjà, quand on écrit des livres, je pense qu'on est déjà dans un rapport de temps différent avec le lecteur. Et que on lui donne cette fenêtre de où ils ou elles vont pouvoir aménager leur temps comme ils veulent, en fait, et on crée ce temps pour eux et elles. On crée cet espace, ce cercle magique, en fait, comme dans un jeu. Pareil, les jeux peuvent être même beaucoup plus forts en termes de temps, dédensifié pour ces jeux. On a l'impression, quand on joue, on voit pas le temps passer, quoi. Et quand on lit très profondément, oui, mais c'est vrai que la lecture peut être interrompue un peu plus facilement, il faut vraiment se concentrer, machin. Le jeu vidéo, il a cette capacité d'absorption du flow, en fait, qui est complètement chimique, hein, biochimique, neurochimique, quoi. Donc, je pense qu'il y a ce rapport au temps, et donc forcément, c'est toujours pareil, c'est est-ce que je suis capable de stimuler avec des choses que j'écris et des choses que j'invente, d'avoir un impact physique dans la réalité, parce que c'est ça aussi le propre de ce que tout le monde essaie de faire modestement, c'est que ce soit d'envisager le futur de manière correcte, ou en tout cas d'essayer de le faire, que ce soit de prendre connaissance du présent, de ce qui se passe, et d'être vigilant et d'observer ce qui se passe dans le présent pour pouvoir créer des résistances, c'est aussi un moyen de prendre conscience de nos propres limites et du fait que tout ce qui naît tend à disparaître, quoi. Et ça, c'est un mécanisme qui est à l'œuvre dans l'univers, qui vaut pour tout le monde, et qu'on a tendance à oublier en se planquant derrière des mythes, en se planquant derrière souvent des sentiments, des illusions sur nous-mêmes, des constructions d'identité un peu complexes, voire complètement banales, simplistes. Et je pense que si on se sert, encore une fois, la science-fiction va se servir du temps pour pouvoir déployer finalement un moyen d'impacter le réel de ses lecteurs pour dire, ben vas-y, prends conscience qu'un jour tu vas crever, que tous les gens que t'aimes vont mourir, quoi, mais que c'est pas grave parce que c'est ça qu'il faut prendre conscience de la chance qu'on a de le vivre et d'établir ces liens entre nous, quoi. Voilà.
Donc c'est vivre le moment présent plutôt que de se projeter dans une temporalité.
Bah alors, vivre le moment présent, mais non, on est obligé de faire les deux. C'est toujours pareil, c'est pas ni l'un ni l'autre, c'est pas l'un et l'autre, quoi. On peut pas être dans le moment présent si on n'a pas conscience que les choses sont sur. Mais je l'avais dit ici il y a pas longtemps. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans alors que ça fait 3 jours, quoi. Que à tout moment, ça fait 1000 ans, quoi. Je puisais. Sérieux, quoi. C'est pas vivre le moment présent, c'est savoir faire attention à la narration qu'on déploie pour accepter la mort et accepter la mort des gens qu'on aime, quoi. Mais c'est aussi prendre conscience qu'à tout moment, à tout instant, et dans la granularité la plus fine du réel qu'on puisse exercer, qu'on puisse percevoir, c'est d'être toujours au top de ce qu'on est capable de faire en termes de capacité et d'amour, quoi. C'est ce qu'on appelle l'apex, quoi. C'est-à-dire ce moment de où on donne tout le temps, permanence, quoi. C'est pas le mindfulness de genre je suis zen et je vois le néant et je vois le machin et tout. Ça, c'est autre chose. C'est pas de ça dont je parle. Moi, je parle qui a été développé en mindfulness de nos jours, cette espèce d'hygiène de vie, de self-care un peu étrange, quoi. C'est pas ça dont je parle. Je parle vraiment du fait qu'il y a une puissance de vie, de la source vive qu'on a, quoi, dans le temps qui se fait, donc qu'on doit percevoir à la fois dans le temps déployé, quoi, tout le temps là comme ça, mais aussi vraiment, mais c'est tout ce qu'on pourra faire de mieux à tout moment, à tout instant, maintenant, pour toujours, quoi. Vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ça va ?
Il y a aussi plusieurs utilisations qui peuvent être faites par les auteurs. Ils peuvent utiliser le temps pour montrer, par exemple, le passage des générations et quelque chose qui est arrivé dans le passé, comment ça va impacter les descendants. Il y a des auteurs qui peuvent aussi donner des messages, je pense notamment à Vos Terres Mortes, sur justement quand on est dans l'anticipation, en disant voilà, attention, on prévient le lecteur en lui montrant un futur possible. C'est aussi une façon d'attirer son attention sur voilà ce qui risque d'arriver si on fait ci, si on fait ça, avec peut-être là, de la part de l'auteur, un souhait d'alerter parce qu'on a noté quelque chose. Et forcément, je pense que tout écrivain met aussi des choses de lui dans ce qu'il écrit, même si c'est pas toujours conscient, mais on va forcément essayer d'impulser des choses dans nos écrits et il y a forcément des messages qui passent de ce qu'on pense nous.
Oui, puis il y a quand même une dimension intéressante dans le fait de se projeter, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, au niveau interplanétaire, puisqu'après tout, c'est l'agence spatio-temporelle, hein, de la science-fiction, notre sujet. C'est que l'auteur de science-fiction est toujours à la recherche de territoires vierges, où il puisse projeter son imagination et sa fantaisie à sa guise. Et donc, je crois que là, c'est pas vraiment idéologique, à moins que de rattacher ça à la soif de conquête permanente de l'homo occidentalus, que je sais pas comment, ou occidentalis plutôt. Voilà. Donc il y a aussi cette dimension, je crois.
Oui, il y a aussi la dimension effectivement de rapport à donc spatio-temporel. Quand on part, je pense notamment à Laurent Jeunefort, quand on situe ses actions très loin dans le space opéra, sur des mondes très éloignés les uns des autres, il y a quand même un rapport au temps qui est différent aussi. Parce que de toute façon, le temps devient une donnée relative, pour le coup.
Ah, alors, c'est intéressant. Pardon. Non, je suis en fin de crève, désolé. Vous savez tout. Alors, le space opéra, la temporalité du space opéra, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent de la temporalité space opéra par rapport à l'anticipation. De mon point de vue, il y a, à partir du moment où il y a eu une rupture radicale avec le présent contemporain, la temporalité change, mais de façon presque. Il se passe quelque chose de. Enfin, on introduit quelque chose de métaphorique dedans. Ça devient une image. Et je sais que quand je pense à ce futur indéterminé, il n'y a pas de date, Il y a eu une rupture et il n'y a pas de date. Ça devient le temps du conte. Et finalement, là, pour le coup, il n'y a pas de machine à voyager dans le temps pour ça. Il faut une machine à voyager dans les mythes et une machine à voyager dans la perception, mais pas dans le temps, en fait. C'est parce qu'on est dans le temps du conte, quelque part. Et même un space opéra aussi réaliste que le mien, que j'essaie de le faire, il y a cette dimension-là qui fait que je pense que jamais, même s'il y avait une machine à voyager dans le temps aujourd'hui qu'on se projetait, je sais qu'il n'y a aucune chance qu'on arrive à l'avenir que je décris. Tout simplement parce que j'ai fait des choix d'imaginer des trous de verre géants, des trous de verre macroscopiques. Je sais que ce n'est pas possible. Et ces choix-là coupent radicalement du monde contemporain. Donc c'est un voyage. Le futur, et c'est peut-être aussi valable, j'allais dire, peut-être au compte-gouttes dans l'anticipation, mais je pense qu'aucune machine à voyager dans le temps n'ira aussi loin que la science-fiction. Parce qu'on met du sens, et on ne met pas de la réalité, on met du sens. C'est pas la même chose. C'est un peu flou aussi ce que je dis. Mais...
Non, c'est absolument passionnant.
Parce que là, en fait, il n'y a plus limite, parce que c'est notre imaginaire qui part finalement aussi loin qu'on le veut.
Voilà, et du coup, quand j'imagine un futur avec des planètes très connectées et où chaque planète est finalement ce qui distingue une planète lointaine d'une planète proche, ce n'est plus la distance géographique parce que chaque trou de verre permet de relier chaque planète. C'est une manière de lire le monde contemporain comme ce qui est éloigné, c'est ce qui est peu connecté. Ce qui est éloigné, c'est ce qui est éloigné de nous, c'est ce qui communique peu avec nous, en fait. Et pas ce qui est proche, mais qui ne... Voilà, on peut être proche de quelqu'un ou de quelque chose, mais tant que ce qu'on ne communique pas avec, ça peut être à des années-lumière, ça ne change rien. Et vice-versa.
On approche tout doucement de la fin de cette conférence. Ça passe très très vite. Il nous reste quand même un petit peu moins de 10 minutes pour prendre des questions du public. Alors, ils arrivent. Je pense qu'il y en a une là-bas. N'ayez pas peur, hein.
Bonsoir. On parle souvent de paradoxe lorsqu'on fait des allers-retours vers le passé, mais je me dis, on ne s'est jamais réellement posé la question de ce qui se passerait, par exemple, si on a une machine à aller vers le lendemain, juste le lendemain ou l'après-demain, et qu'on reviendrait finalement avec le loto, les numéros du loto, de l'euro-million. Finalement, qu'est-ce que ça pourrait engendrer comme problème, si problème il devait y avoir ?
Je me dis vous, ça dépend ce que tu ramènes.
Oui.
Donc ça peut poser autant de problèmes que tu as d'objets et que tu as d'informations à ramener. Tu parlais des résultats du loto et tout. Dans Primer, ils font ça, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. En fait, ils jouent sur le marché, quoi. Et ils ramènent en fait les positions bancaires de certaines corporations. Et voilà, dans Back to the Future, c'est un espèce d'almanach qui donne tous les résultats. Après, c'est en fonction... En fait, je ne sais pas si votre question, elle a trait à... Est-ce que c'est des choses qui vont nous toucher dans notre intimité ou c'est des choses qui peuvent dégénérer complètement ? Parce que dans Back to the Future, ça dégénère complètement. Je veux dire, le simple fait qu'il laisse son almanach entre les mains d'un psychopathe, qui est Trump, littéralement, quoi, et qui transforme l'Amérique en Amérique de Trump, quoi, bien avant l'heure, en fait, je veux dire, ça, c'est une proportion, ça prend des proportions inouïes, parce que c'est vrai que si on a ce pouvoir hallucinant de connaître tous les résultats sportifs pour sur des décennies, voilà. Mais encore une fois, ça, enfin, je sais pas, je suis pas ce que vous en pensez.
C'est un thème qui a été traité de longue date. Il y a un film qui est déjà assez ancien, en noir et blanc, qui s'intitule C'est arrivé demain. Où justement le héros a accès à un journal du lendemain qui donne les résultats des paris sportifs. Et il va se servir de ça, qui est un truc du film est basé là-dessus. Et ça aboutit à des catastrophes, effectivement.
Après, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce sujet, par contre, qui est hyper intéressant et qui ouais. est plutôt du domaine de l'intimiste, quoi. C'est-à-dire de si et si le truc prenait pas des proportions inouïes. Je ne sais pas si vous avez joué à Life is Strange, qui est un très beau jeu vidéo d'un studio parisien. Et en fait, c'est quelque chose de très très beau. Je vous conseille d'y jouer. C'est un jeu qui met en scène deux adolescentes à Portland, Oregon, et l'une d'elles a une capacité à voyager dans le temps, mais sur des périodes. Enfin, c'est très intéressant ce qui se passe, quoi. Et là, on a des choix qui impactent directement la vie privée, la vie quotidienne des gens, dans ce cas-là, de plus intime et plus touchante, en fait. C'est pas du tout un truc qui. Voilà. C'est un très beau jeu qui parle de ça très très bien. Parce qu'on pourrait délirer sur le nombre de cas de figure qu'on pourrait créer à partir de ce simple postulat, en fait, quoi. Sans même que ce devienne des paradoxes, hein, d'ailleurs. Que ce soit juste des moyens de changer la vie des gens comme ça. Voilà.
Oui, finalement, s'il ramène quelque chose du futur, il va forcément changer le passé de ce futur. Futur qui risque de ne pas exister.
Voilà, c'est
donc
ça. Et en fait, c'est là l'erreur de Back to the Future 2. C'est là-dessus qu'en fait, ils se plantent et ils ne prennent pas ça en compte, en fait.
Ouais.
Ouais.
Parce qu'il y a aussi un paradoxe si tu ramènes quelque chose du futur.
Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé des conséquences qu'avait... Toutes vos créations par rapport au voyage temporel, donc que ça soit par rapport à tricher sur son passé, par rapport à un élément du futur, et justement si on en revient au thème de la conférence, qu'est-ce que vous mettriez en place ou qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour limiter les dégâts ou justement pour autoriser ou réguler ces voyages dans le temps? Est-ce que ça serait par une agence physique spatio-temporelle ou par une éthique, une morale? Merci.
Ah ben, je sais que dans Satinka, l'héroïne, à un moment donné, dans sa quête, elle voyage dans le temps parce qu'elle a besoin de faire quelque chose. Et en fait, c'est les grands esprits qui l'autorisent. Et une fois qu'elle a réalisé ce qu'elle avait à faire, les grands esprits lui retirent ce pouvoir. Donc comme ça, après, je suis tranquille. Elle peut plus. Elle a réglé ce qu'il y avait à régler et on va arrêter les dégâts. Dans la serre, effectivement, à la fin, on finit par lui confisquer le fameux dispositif pour qu'il arrête de jouer aussi et d'aller un peu n'importe où et bouleverser un peu la trame du temps. Donc finalement, oui, il y a des verrous qui ont été mis, mais je ne sais pas si c'est systématique en fait.
Alors,
hein, ça dépend.
Moi,
de...
j'ai plusieurs exemples. En fait, je connais vachement. En fait, ça m'intéresse carrément. C'est un truc de fou, quoi. Non, mais je sais pas. Je devais être de mauvaise humeur ou je sais pas. C'est une grosse journée. Je voulais pas parler. J'étais fatigué. Non, j'ai plusieurs exemples en tête. Alors, premier exemple, c'est un bouquin d'Asimov qui est absolument génial, qui s'appelle La fin de l'éternité. Voilà, que je vous conseille de lire aussi parce que c'est une tuerie où il y a une agence. Tu plus sois, il y a une agence temporelle là qui justement, enfin le monde, enfin l'univers entier est régi par l'agence temporelle en fait, et il y a des bornes, on peut voyager comme on veut, un peu comme on veut avec des aiguilles, et en fait il y a des endroits qui sont interdits, il y a des portes, il y a des sorties de temps qui sont interdites parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils ont bidouillé là-dedans les agents, il y a une espèce de conseil d'arcon de autoritaire là-dessus et tout, c'est super bien fait. Il y a un peu un système similaire dans il y a une nouvelle de Dick sur le sujet, je crois, non, c'est pas, comment elle s'appelle, Space Adjustment Bureau.
Il y a effectivement une agence qui est chargée de faire en sorte que l'histoire ne sort pas de ses
rails. C'est ça, voilà, c'est ça. Il y a ça, il y a Time Cop avec Jean-Claude Van Damme. Glissement de temps sur Mars aussi, bien sûr. De Dick, ouais. Et puis Total Recall, quoi. Ouais, la patrouille du temps. Et il y a aussi un truc super, c'est un jeu de rôle qui s'appelle Continuum, qui est un jeu de rôle indépendant qui a été créé à la fin des années 90, et en fait qui met en scène complètement en fait des personnes qui ont la capacité de voyager dans le temps juste en se retournant. Et donc ils se retournent et ils se retrouvent là où ils sont et ils créent comme ça une espèce de société secrète à l'intérieur même de notre monde en fait, où ils sont en permanence en train de changer le réel autour de nous, quoi. Parce qu'on voit pas, parce que c'est tellement imperceptible leur truc, quoi, que et ça marche super bien. Mais alors c'est l'enfer sur les feuilles de perso, parce qu'il faut noter toutes les dates, tout ce qu'on a fait à tel moment et compagnie. Enfin, c'est assez dément, c'est injouable, mais c'est fun.
Je crois que le voyage dans le temps ultime, ça avait été, c'était une nouvelle, pareil, de l'âge d'or d'un auteur qui a pas fait énormément Flores après, mais qui imagine une machine à voyager dans le temps qui part dans le passé et le voyageur, je crois, il meurt. Un arrêt cardiaque dans la machine, et la machine va jusqu'à l'origine des temps, elle heurte ce mur invisible, et en fait elle va donner l'impulsion du Big Bang, en fait. Donc c'est la machine à, en fait, sans cette machine à voyager dans le temps, il n'y aurait pas l'univers tout entier. Donc elle est là, je crois qu'on ne peut pas faire mieux comme sui generis. Voilà.
Ouais, mais je crois que dans la question, il y avait aussi la question, c'était vraiment est-ce qu'on est obligé de mettre en place une espèce de structure autoritaire et hyper administrative comme ça, ou est-ce qu'on peut aussi mettre en place une morale et une forme de philosophie du temps en fait qui pourrait régir tout ça quoi. Mais c'est plus rare déjà.
Quelque chose qui sont un peu comme les trois lois d'Asimov quoi.
Oui, c'est ça exactement. Mais pour le temps, alors il faudrait que il y a sûrement des choses qui ont été faites dessus. Là, ça me vient pas tout de suite à l'idée. Si quelqu'un a une idée parmi vous.
C'est vrai, souvent dans les récits temporels, c'est plutôt une agence qui va contrôler pour éviter que les gens fassent des bêtises.
C'est un truc du genre littéraire de l'ASF, j'imagine, que d'avoir cette espèce d'agence administrative un peu compliquée, machin. Mais c'est vrai que des lois du temps comme ça, implémentées de manière soit consciente, soit inconsciente de la part des personnages, je trouve pas là.
Mais en fait, c'est une vision conservatrice. Fondamentalement, la notion d'agence temporelle, c'est une notion conservatrice, puisqu'on essaie de conserver, ou d'améliorer un peu, mais de conserver globalement un flux normal. Tout est dans le thème normal qui peut aller jusqu'à des atrocités en fait en réalité. Donc voilà, c'est tout. Et en même temps, il y a des auteurs comme Jean-Pierre Andrevon par exemple qui a beaucoup écrit sur le temps et pour lui sa vision du temps elle est elle-même conservatrice. C'est-à-dire que c'est un tissu élastique, mais grosso modo quand on change quelque chose, ça revient globalement le tissu c'est un élastique. C'est une toile élastique, et donc quoi qu'on fasse, on peut faire des petits arrangements entre des locaux, quoi. Mais globalement, c'est difficile de faut impulser une force très forte pour changer drastiquement la flèche du temps, enfin la direction temporelle. Donc il y a plein, en fait, c'est marrant, il y a plein d'idées même du temps. On peut imaginer pourquoi, après tout, on peut laisser le temps en liberté, quoi.
Yes. C'est sur ces paroles que nous allons nous arrêter, sur cette conclusion. Merci à tous, merci à vous.